Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
État des lieux de la lutte contre la traite des personnes en RDC. Comment s'est fait la lutte contre la traite des personnes? Comment réprime-t-on sur le plan judiciaire la traite des personnes? Depuis qu'une agence chargée de cette cause existe, combien de victimes dénombre-t-on? Et leurs bourreaux ont-ils déjà été interpellés ou traduits en justice? Que fait exactement l'APLT? Bilan et perspective. Droit et citoyenneté reçoit Madame Rebecca Meta Kassanda, coordinatrice de cette agence de la lutte contre la traite des personnes en RDC, avec qui nous allons aborder cette thématique à l'occasion de la célébration internationale de la lutte contre la traite des personnes, qui est célébrée sous quel thème, madame?
La journée mondiale de la dignité de victimes de traite des personnes en 2021 est célébrée au plan mondial sous le thème « La voix de la victime guide ». Et au niveau de la RDC, le thème qui a été maintenu, c'est « Victimes de la traite de personnes en République démocratique du Congo, priorité de notre combat ».
Voilà, la voix de la victime, si elle est au moins entendue. Est-ce que cette voix, elle est réellement entendue? Nous allons voir ça tout à l'heure avec vous.
Voilà qui fonde l'intérêt de ce magazine coordonné et présenté par Jeff Ngoyi Mulonda. Bienvenue à tous.
État des lieux de la lutte contre la traite des personnes en RDC. Le magazine de promotion de vos droits et devoirs vous en parle avec la coordinatrice de l'agence de prévention et de la lutte contre la traite des personnes, Madame Rebecca Meta. Et pour commencer, Madame, présentez-nous d'abord l'agence.
L'agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a été créé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 22 avril 2019, par ordonnance numéro 19/027. Cette ordonnance fixe non seulement la création, mais le fonctionnement.
Comment se fait la lutte contre la traite des personnes dans notre pays?
Bon.
Vous procédez
à
comment?
À la création de l'agence, c'est une nouvelle structure. C'est la première fois que l'agence de lutte contre la traite des personnes est créée en République démocratique du Congo. Étant une nouvelle structure, il fallait maintenant le doter de documents pour son fonctionnement. Nous avons de prime abord cherché à doter notre pays d'un plan stratégique. Donc une planification sur 5 années et une politique stratégique. Donc la stratégie nationale a été élaborée, tout comme le plan d'action. C'est ce que nous appelons le plan stratégique. Et ces plans stratégiques élaborés après des recherches et des contacts avec tous les milieux intéressés a été validé au cours d'un atelier national le 25 juillet 2019. Donc, quelques 3 mois après la création de l'agence, puisqu'on ne pouvait rien faire sans un plan. Et la deuxième chose que nous avons fait, et qui relève des missions qui nous sont données, c'était de préparer un texte de loi pour qu'on puisse prévenir d'un côté, réprimer et prendre en charge ou protéger les victimes. Donc ce texte de loi a pris le temps que tous les textes de loi peuvent prendre, puisque la traite des personnes est transversale. Il touche à plusieurs domaines de la vie de la personne. C'est ainsi que, avec tous les intervenants, nous avons eu un atelier de validation, puisque le travail d'élaboration a été fait sur presque une année, et nous avons eu un atelier de validation au mois d'août 2020. Et c'était à l'hôtel Memling. Et à cette occasion, tout le monde a apporté une contribution à ce texte de loi. Le texte de loi ainsi élaboré a été transmis au gouvernement. Mais avec la situation politique que vous connaissez, que nous avions traversée au moment où il y avait la coalition FCC-CACH. Donc rien n'a joué pour que ces textes soient adoptés, donc soient validés ou adoptés au niveau du gouvernement. Nous avons dû attendre que le nouveau gouvernement soit mis en place en février pour que nous puissions transmettre à nouveau ce travail qui a été fait par les experts. Et ce travail a été transmis au gouvernement et il est porté par le ministre des Droits humains. Et c'est normal que ce ministre porte le projet puisque la traite, c'est une violation grave des droits de l'homme. Et les informations que nous avons eues est que le dossier se trouve maintenant au niveau des commissions interministérielles qui l'analysent afin de le transmettre au Conseil des ministres pour la validation. Dès que ce travail est validé au niveau du gouvernement, il sera transmis au Parlement et il sera examiné par les deux chambres. À part le texte de loi, nous avons collecté les informations pour élaborer le premier rapport de la République démocratique du Congo sur la traite des personnes. Et ce rapport a été produit en mars 2020. Ce premier rapport transmis et au Conseil des droits de l'homme et au département d'État. Je pense que vous allez vous poser la question, pourquoi le département d'État américain? C'est-à-dire les pays membres ou les partis États à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à son protocole additionnel visant à réprimer, punir et prévenir la traite des personnes, ont donné cette charge au département d'État américain pour qu'il fasse un rapport mondial. Donc tous les rapports qu'on transmet vont atterrir au département d'État. Donc nous les envoyons à la commission et nous réservons copie au département d'État. Et chaque année, le 30 juin, le département d'État produit un rapport avec un classement mondial suivant les critériums qui a été fixé à l'avance. Et en 2020, notre pays qui était au niveau tiers 3, donc le bas niveau, donc le niveau des pays qui ne font rien pour lutter contre la traite des personnes, depuis 2005, a pu quitter ce niveau-là de tiers 3 pour monter au tiers 2. Mais quand on monte au tiers 2, pour la première fois, on a des observations. Et ces observations, nous sommes en train d'y travailler. Il y en avait 10. Maintenant, au rapport du 30 juin 2021, il nous reste 8 observations. Je vous dirais que c'est trop peu. Avoir réussi à faire évacuer des observations. Oui. Les observations tournent, les grandes observations qui peuvent nous faire passer des niveaux avec observation, tiers 2 avec observation, au niveau tiers 2 sans observation, tournent autour du texte de la loi, tournent autour de la base des données. Puisque c'est dans la base de données qu'on va découvrir le nombre de cas identifiés.
À vous entendre parler, on dirait que depuis que vous existez, vous êtes toujours dans les textes, dans l'harmonisation des textes juridiques.
Nous avons terminé l'harmonisation des textes. Maintenant, c'est le travail du... Bon, l'agence a commencé la sensibilisation. Vous savez que nous sommes en période de COVID. Nous ne pouvons pas faire la sensibilisation à grande échelle. Nous avons commencé avec les structures socio-professionnelles. Vous, les médias, vous avez été formés et sensibilisés. Nous avons sensibilisé aussi et formé les inspecteurs du travail. Nous avons sensibilisé et formé les femmes leaders. donc leader des organisations de la société civile. Nous allons nous entretenir pour sensibiliser les bourgmestres des communes, donc de 24 communes de la ville de
Kinshasa. Vous le faites qu'à Kinshasa ou bien en province aussi?
En province, on va y aller progressivement. Nuit était cette histoire de Covid qui nous a freinés pendant presque 2 ans. On aurait déjà couvert toutes les provinces par la sensibilisation. Nous avons formé quelques acteurs de la, acteurs de première ligne qui interviennent dans le domaine de la traite. On en a formé ici à Kinshasa. Il y a eu une formation à Lubumbashi. Et je crois que la semaine prochaine ou la semaine d'après, il y aura la formation dans le Bas-Congo, Congo central.
Congo central.
Je m'excuse d'appeler l'ancienne appellation.
Oui.
Et ainsi de suite, on va y aller progressivement. Donc, avec ces sensibilisations et la formation, nous pensons que avec l'effet de multiplication, puisque ceux que nous sensibilisons sont chargés aussi de sensibiliser dans leur milieu. Par exemple, les inspecteurs du travail que nous avons sensibilisés vont sensibiliser dans les milieux du travail, là où ils travaillent. Ce qui fait que si nous avons sensibilisé 20 ou 30 inspecteurs du travail, ils vont sensibiliser plus. Et en ce moment-là, l'information circule et atteindra le plus du monde. En matière de sensibilisation, je crois que d'ici 2 jours, vous verrez dans les artères de la ville des pancartes, des banderoles qui vont servir d'outils de sensibilisation de la population. Il y aura des spots au niveau de la radio et de la télévision, je pense que ça arrivera.
Pensez-vous qu'avec cette sensibilisation, les gens qui vendent de l'eau en cours de route, les mendiants, vont quitter la voie publique et retourner dans leur maison?
Ils ne vont pas quitter d'un coup. C'est une question de longue haleine. Donc, il faut d'abord qu'ils comprennent, puisque nous sommes sûrs que ce qu'ils font, ils ne savent pas que ce sont les actes de traite qu'ils sont en train de commettre. Mais il faut d'abord qu'ils se rendent compte que ce qu'ils font, c'est un acte de traite.
Mais ils sont aussi à la recherche de leur survie.
Et lorsque,
sans cela, ils ne peuvent pas survivre.
Nous savons qu'il y en a qui viennent par nécessité. Et d'autres, c'est leur business. Et parmi ceux qui envoient les enfants sur la route mendier, ce ne sont pas les nécessitaires. Je vais vous donner un exemple. Il y a plusieurs années, j'étais avocate dans cette ville. Il y avait toujours une personne infirme qui demandait l'argent sur la route. Chaque fois que je passais avec ma voiture, je lui donnais, parce que je voyais que c'était vraiment quelqu'un qui était dans le besoin. Mais un jour, j'ai terminé le travail tard. En rentrant à la maison, j'ai vu ce monsieur qui pour marcher, avait des béguilles, avait mis ses béguilles sur son épaule. Et il était saoul, donc il n'était pas nécessité. C'était son business. Donc, il y en a beaucoup qui sont là pour business.
Donc,
il y a même des faux aveux.
Vous avez un grand travail à faire. Et avez-vous au moins une estimation du nombre de victimes de cette traite?
Je ne peux pas vous donner un chiffre.
Même les personnes qui sont la base, les bourreaux.
Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, puisque nous sommes en train de collecter les informations. Notre service de collecte de données et de toutes les informations est en train de travailler avec tous les partenaires. Vous voyez pourquoi nous avons la commission technique restreinte. Donc, il y a les représentants des ministères qui travaillent avec les divisions provinciales pour faire remonter les informations. Donc, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous donner un chiffre exact.
Mais comment se fait la répression au niveau judiciaire, puisque
bon,
vous êtes en partenariat avec des institutions judiciaires?
Au niveau judiciaire, nous avons sensibilisé des magistrats. Mais la difficulté qu'ont les magistrats, nous n'avons pas encore la loi spécifique réprimant la traite des personnes.
C'est celle que vous attendez du Parlement.
C'est ce que nous attendons.
Mais ça fait déjà combien de temps que vous attendez cette loi? Donc sans cela, vous ne pouvez pas fonctionner, vous
Mais
ne pouvez pas travailler.
Il y a des juridictions, par exemple les juridictions militaires répriment la traite des personnes puisque le code de justice militaire le prévoit. Les tribunaux pour enfants répriment la traite des enfants. La loi portant protection des enfants prévoit explicitement la traite des enfants.
Y a-t-il des procès qui sont organisés dans ce sens?
Il y a des procès dans ce sens. Je peux vous dire, au niveau des juridictions...
Et ça aboutit à des condamnations?
Ça aboutit à des condamnations, et des condamnations sévères. Par exemple, pour la justice militaire, au niveau des opérations à l'Est, les responsables des rébellions, donc les chefs de guerre qui recrutent les enfants
oui, dans les armées,
qui utilisent les femmes comme esclaves sexuels, comme domestiques, qui utilisent les enfants comme des espions ou comme combattants, ces personnes, lorsqu'ils sont, ils tombent dans les mains de la justice opérationnelle. Au niveau des juridictions opérationnelles, au front, ils sont condamnés pour cause de traite des personnes. Et les peines sont sévères. Ils vont jusqu'à 20 ans. Donc, il y a eu plusieurs condamnations. Mais je ne peux pas donner un chiffre exact tant que je n'ai pas vu les jugements ou les arrêts des cours opérationnels. Nous suivons à la radio, à la télévision qu'on a condamné. Nous sommes en train d'attendre, puisque nous devons les mettre dans notre base de données et en parler après. Tant que ce n'est pas encore enregistré dans nos bases de données, nous ne pouvons pas donner un chiffre exact. Ici, à Kinshasa, il y a des personnes qui se retrouvent à la prison de Ndolo pour acte de traite, qui sont condamnés. Et les jugements, je pense qu'on va les avoir d'ici quelques jours.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30. Le mardi à 14h15.
Droit
et citoyenneté.
À présent, nous nous tournons vers nos chargés d'études, M. Luto, nos chargés d'études à l'Agence de prévention et de la lutte contre la traite des personnes en RDC. Avec lui, nous allons chercher à savoir qu'est-ce qu'on entend par la traite des personnes et quelles sont les différentes formes de cette traite qu'on peut distinguer ici chez nous.
La traite des personnes, c'est un crime, une sorte d'esclavage camouflé. La traite des êtres humains, par rapport à la définition qui est donc définie dans la Convention du Palerme, la traite des êtres humains, c'est une longue définition. Mais ce qu'il faut retenir de la traite des êtres humains, c'est le fait de priver à une personne de sa liberté pour finir par une certaine exploitation. Donc l'élément déterminant pour parler de la traite des êtres humains, c'est l'exploitation de la personne par une autre personne. Donc prendre une personne, l'emprisonner, le recruter, le transférer, le transporter, le berger et pour fin d'exploitation. Ça s'est fait souvent, très souvent par la menace, par les recours à la menace ou par une autre forme de contrainte, soit alors par la ruse. Et tout ça, la finalité, c'est pour exploiter la personne qui finit par accepter l'offre présentée par le bourreau.
Mais vous parlez de la contrainte. Sans cette contrainte, il n'y a pas de crime. Il y a parfois des petits enfants qui se débrouillent dans la rue, qui vendent de l'eau.
Non. Un enfant, sa place est à l'école.
Là, il n'y a pas contrainte, c'est la personne elle-même qui
La traite des êtres humains
se met dans la rue.
C'est soit par la ruse, soit par contrainte. Il peut se faire que cette personne-là subisse la ruse On lui dit, par exemple, il y a nos sœurs qui sont ici, qui sont recrutées. Non, c'est une agence de voyage. Nous vous prenons, nous allons vous amener soit aux États-Unis, en France. Là-bas, il fait beau vivre. Nous allons vous donner un bon travail, un bon salaire. Et cette personne donne son consentement volontairement. Là, il n'est pas question de la force ou de la contrainte. La personne accepte librement de l'offre lui présentée par le bourreau. Il voyage, arrivé là-bas, on lui dit, tu ne vas pas travailler, on lui prive sa liberté, on lui confisque le passeport, on lui soumet à l'exploitation sexuelle.
Là, ça devient un crime. Le parent qui envoie son enfant qui demandait de l'argent sur la voie publique, c'est livré à la mendicité.
C'est l'une des formes même de la traite des êtres humains.
Et là, nous entrons déjà dans les formes.
Oui.
Vous pouvez nous en citer quelques-unes.
Exactement. Quant aux formes de la traite des êtres humains, il y a l'exploitation des enfants dans les carrières minières. Il y a les travail forcé, il y a l'enrôlement des enfants de manière forcée dans les groupes armés, il y a la mendicité forcée dont nous faisons allusion à peine. Donc vous prenez un enfant, vous voyez, il s'est fait accompagner par un aveugle, tout ça, quelqu'un qui est vieux, peut-être un vieux, il lui dit voilà, tu vas demander de l'argent à mon nom. Donc cet argent-là qui découlerait de cette mendicité-là ne profiterait pas à cet enfant-là. Ça profite à ses papas-là ou à cette personne-là que cet enfant-là conduit. Donc, il y a exploitation dans les chefs de ces papas-là qui conduit et qui se promène avec cet enfant-là. Cet enfant-là est exploité.
Y a-t-il d'autres formes?
Oui, il y a les trafics d'organes, la vente, le trafic d'enfants. Donc, vous voyez quelqu'un qui prend quelqu'un, qui les tue pour vendre les reins. Parce que ce sont des crimes qui rendent parfois riches. Vous voyez une personne qui est recrutée ici, au Congo, RDC, pour être traversée à Brazzaville. Arriver là-bas, c'est pas pour qu'il travaille, c'est pour qu'on le tue là-bas. Et lorsqu'il est tué, on retire les organes, on retire les reins, on retire les foies, on retire le cœur, on retire pour vendre à une personne.
Tout cela s'est passé ici chez nous?
Ici, en République démocratique du Congo, depuis que nous avons l'agence à vie le jour, nous n'avons pas encore, jusque là, par rapport à notre base de données, retrouvé un cas de trafic d'organes. Mais seulement, ce qui est vrai, nous avons de cas de suspicion à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons quelques cas. Nous voyons quelqu'un qui a été abattu par les groupes armés, mais qui se retrouve sans vie. Mais non seulement qu'il n'a pas de vie, aussi on voit qu'il y a quelques parties de son corps qui est muselé, il y a quelques parties de ses organes qui ne sont pas dans son corps. Et donc, parce que les faits n'étant pas très clairement élucidés, et donc nous disons qu'il y a des cas approximatifs de trafic d'organes. Mais nous sommes en train de travailler dessus une fois que nous avons des cas très concrets par rapport à ces faits-là. C'est alors que nous allons parler que nous allons dire qu'en République du Congo, ces trafics-là d'organes est en train de battre le plein aussi. Mais pour l'instant, c'est qu'il y a la forme de traite qui est le plus usuelle, le plus exploité en République du Congo. Il y a la mendicité forcée, il y a l'enrôlement des enfants dans des groupes armés, il y a la vente d'enfants, il y a l'exploitation de la prostitution d'autrui. Donc quelqu'un que vous allez voir, une maman qui a une sorte de flamingo, un hôtel ou deux, trois chambres qu'elle se paye, elle entretient des filles qui travaillent en son compte. Donc ce sont des cas de traite qui sont un peu réguliers.
État des lieux de la lutte contre la traite des personnes en RDC, le magazine de promotion de vos droits et devoirs vous en parle avec la coordinatrice de l'agence de prévention et de la lutte contre la traite des personnes, Madame Rebecca Meta Kassanda, que nous recevons. En termes de bilan, êtes-vous satisfaite de vos activités depuis que vous existez et quelles peuvent être vos perspectives?
Bon, en termes de bilan, je vous dirais que l'appel TP, donc l'agence, est en retard sur ses prévisions. Ce retard est dû à la pandémie de COVID qui nous a empêchés de nous déployer sur terrain. Mais quelques résultats ont été obtenus. Nous avons doté la RDC d'un plan stratégique de 5 ans qui va de 2020 à 2024. La RDC dispose d'un projet de loi.
Et comment s'articule ce plan stratégique?
Nous l'avons donc Il y a d'un côté la stratégie nationale. Là, c'est la littérature sur la politique, comment on va intervenir sur terrain et autres.
Et comment vous allez intervenir?
Nous allons intervenir...
Par la sensibilisation.
À part la sensibilisation, il y a la formation. Il y a la collecte des données. Il y a la recherche. Il y a la ligne verte.
Donc, qui veut dire
la
quoi?
Ligne verte pour les victimes.
Donc, un numéro vert.
Un numéro vert. D'ailleurs, je vais dire que l'État congolais nous a doté d'un numéro court. Donc la RPCT nous a donné un numéro court. Et nous sommes en négociation avec les services de téléphonie mobile, donc les opérateurs, pour les numéros longs. Donc nos échanges en ce moment, c'est sur les cautions que nous devons payer et les abonnements que nous devons prendre. D'ici quelques mois, peut-être 2 mois, la ligne verte va fonctionner. Nous avons pu, avec notre partenaire ONU-DC, faire intégrer la RDC dans le système de base de données de la SADC et de l'ONU-DC. En faisant intégrer la RDC au système de base de données de la SADC, on a fait intégrer automatiquement la RDC dans la base de données de ONU-DC, qui est la base de données mondiale, puisque c'est ONU-DC qui veille, qui est le gendarme de tout ce qui est comme criminalité transnationale organisée, dont fait partie la traite des personnes. Ça, c'est un grand pas. Et dans l'entretemps, nous sommes en train de faire un travail qui va aboutir à la mise en place d'une base de données nationale pour la RDC.
Il faut qu'on assiste à un changement sur le terrain. Moi, j'aimerais que dans 2 ans, qu'on ne voie plus ce qu'on est en train de voir sur la voie publique, qu'on ne voie plus les enfants être utilisés dans des groupes armés ou dans des mines. Voilà les actions sur les points sur lesquels on vous attend.
Ouais.
Parce qu'il ne faut pas que tout le mandat du chef de l'État se termine sans qu'on ait quelque chose de concret de l'agence.
Non. Tranquillisez-vous. Vous aurez quelque chose de concret de l'agence. Puisque... pour le moment, on ne pouvait pas, dès le lendemain de notre création, demander à la police d'arrêter. Une police non formée sur la traite des personnes peut arrêter n'importe qui. Donc il fallait qu'on le forme. Nous sommes en train d'y aller. C'est le travail des fourmis, sans faire du bruit. Mais nous savons que d'ici 2 ans, vous observerez un changement.
Vous avez quel message en rapport avec cette journée du 30 juillet?
Ce que je veux dire est que la victime de traite des personnes, c'est une personne à part entière à qui on dénie sa dignité. On lui dénie même son identité, puisque beaucoup de victimes sont connues sous les noms, sous les sobriquets, sous des numéros. Et ces personnes sont nos frères et nos sœurs. Je donne l'exemple que j'aime toujours bien donner, puisque c'est le cas qui est vécu par tout le monde. Nos personnels domestiques. Personne n'a un contrat de travail avec son domestique. Puisque ces personnes sont utilisées comme des bêtes de somme. C'est pire même qu'à l'époque coloniale. On voit une personne qui est là. On l'a engagée pour garder les enfants. Mais elle fait la lessive. Elle fait la cuisine, elle fait le jardin, elle conduit les enfants à l'école, elle fait le mail, elle nettoie, elle fait tout. Et si on doit poursuivre, c'est tout le monde qui sera devant les juges. Et c'est pourquoi nous avons commencé par sensibiliser l'inspection du travail.
Est-ce que vous vous sentez bloqué à cause de cette loi?
La loi bloque. En tout cas. Elle bloque puisque les juges ne pourront pas condamner quelqu'un pour la traite sans la loi.
Droit et citoyenneté se termine par ici, où nous faisions l'état des lieux de la lutte contre la traite des personnes en RDC. Droit et citoyenneté recevait pour vous Madame Meta Kassanda Rebecca, coordinatrice de l'agence de prévention et de la lutte contre la traite des personnes en RDC.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.